Chapitre 7. Vortigern, voyage de Merlin, le vilain au soulier neuf, l'enfant qu'on porte en terre, les deux dragons. Je reprends le récit de Robert de Boron. Merlin est conçu, il est né. Il a confondu les juges qui voulaient condamner sa mère. Les 7 premières années de sa vie s'écoulent sans aventure. La mère vit retirée dans une maison religieuse et le bonhomme Blaise les a suivis dans leur pieuse retraite. Cependant, que se passait-il dans l'île de Bretagne? Le roi Constant avait, en mourant, laissé 3 fils. L'aîné, Ambrosius, surnommé Moine, avait été mis à mort à l'instigation secrète de Vortigern, le sénéchal, usurpateur de sa couronne. Les 2 jeunes frères de Moine s'étaient réfugiés vers Orient, parce que de là étoit venu leur ancêtre. En effet, suivant Geoffroy de Monmouth, Constantin, aïeul des 3 frères, Moine, Pindragon et Uther, était frère d'Audran ou Aldroen, roi de la Petite Bretagne. Car de là vindre notre ancêtre, en une ancienne cité, que on clème au temps qui Or et Boorge en Berry furent nourris grand temps. Bientôt Vortigern, menacé par une partie de ses sujets, appelle à son secours les Saines ou Saxons, dont le chef se nommait Hengist. Hengist, dit Robert de Boron, pourchassa maintes choses que je ne dois retraire. Mais ce vous puis-je bien dire qu'il fit tant vers Vortigier qu'il prit une Sophie à femme, et sache Tuissil, qui sait compte, auront que ce fut celle que premièrement en ses royaumes dit Gersil. Variante, Garsoil, Gersey. Voyez tome 1, page 54. La consultation de Vortigern à ses sages, ses clercs et ses astronomes, pour découvrir ce qui s'oppose à la construction de sa forteresse, est ici plus développé que dans Ennius et dans Geoffroy. Si les devins donnent le conseil de tuer l'enfant né sans père, pour arroser de son sang les fondements de la tour, c'est que les astres leur annonçaient que cet enfant causerait leur mort. Écoutez comment les messagers envoyés par Vortigern font rencontre de Merlin. Il avint un jour que les messagers passèrent un grand champ à l'entrée d'une ville, et en sel champ, à voix grand plantée d'enfants qui joua à la coule. Et Merlin, qui toutes les choses savoit, vit s'il qui le requéroit, si ce trait près de l'un des plus riches de la ville, parce qu'il savoit bien que s'il le mésame roi, si hausse la crosse et fier l'enfant en la jambe, et s'il commence à pleurer et à Merlin reprocher qu'il est né sans père. Quand s'il qui esgardoit l'oïr, s'y allèrent vers celui qui pleuroa et demandèrent « Qui est-il qui t'a féru ?» Et il leur dit « Ce est le fil d'une femme qui onque ne saut qui l'ôte engendré. » Quand Merlin l'oï, s'y vint vers elle riant et leur dit « Je suis s'il que vous quérez, et vous avez juré au roi Vortigern que vous m'oxirez et que vos lits porteraient mon sang. » Le retour des messagers est embelli d'agréables preuves de la préscience de Merlin. Après avoir traversé le marché d'une ville, ils rencontrent un vilain qui venait d'acheter des souliers neufs et une large pièce de cuir. Merlin, en le voyant passer, se prend à rire, et les messagers du roi lui en demandent la raison. « Vous voyez ce vilain ? » dit-il. « Suivez-le, il sera mort avant de rentrer dans sa maison. » 2 des messagers, ayant rejoint le vilain, lui demandent ce qu'il veut faire de son emplette. « Je dois, dit-il, aller en pèlerinage. J'ai acheté des souliers neufs et du cuir pour les raccommoder quand ils seront usés. » Les messagers reviennent à Merlin. « Nous avons parlé à cet homme. Il est parfaitement sain et bien portant. « Suivez-le, cependant, dit Merlin. Ils n'eurent pas fait une lieue qu'il voit le vilain s'arrêter, fléchir et tomber sans mouvement. Ils approchent, il était mort. Cette histoire du pèlerin se trouvait déjà, comme on a vu plus haut, page 85, dans le poème de la Vita Merlini, mais elle est ici mieux à sa place que dans le poème qui l'a inspiré. Dans le cours de leur voyage, une seconde aventure semble faire double emploi avec l'histoire de la mère du juge, En traversant une ville, il voit un grand deuil d'hommes et de femmes autour de la tombe d'un enfant qu'on portait en terre. Merlin se met à rire. On lui en demanda la raison. « Voyez-vous, dit-il, ce prud'homme qui témoigne d'une si grande douleur ?»« Oui. Voyez-vous le prouvaire qui chante là devant les autres ?»« Le prud'homme ne devrait pas pleurer, et le prouvaire devrait mener le deuil. C'est le véritable père de l'enfant. » Allez à la femme, demandez-lui pourquoi son baron fait si grand deuil. Elle vous répondra, pour son fils qui est mort. Mais, direz-vous à votre tour, vous savez bien que le père de cet enfant est le prouvaire. Lui-même le sait fort bien, à telle enseigne qu'il avait gardé note du jour où il l'avait engendré. La femme ainsi découverte ne tarda guère à tout avouer, en priant les messagers de ne rien dire à son seigneur qui la tuerait sur le champ. L'entrevue de Merlin et de Vortigern, la confusion des astrologues, la découverte et l'explication de la lutte du dragon blanc victorieux du dragon rouge, tout cela se trouvait déjà dans Geoffroy de Monmouth, et même en partie dans le Nennius. Mais ce dernier, et nous ne devons pas l'oublier, ne prononce pas une seule fois le nom de Merlin, et chez lui l'enfant qu'on disait né sans père déclare se nommer Ambrosius, et être fils d'un consul romain. Cela est d'autant plus remarquable que, dans le temps même de la composition du poème et du roman de Merlin, paraissait une rédaction romane du fameux livre oriental de Sendebad, traduit en hébreu sous le titre des paraboles de Sendéar, en grec sous celui de Saint-Hippas, en latin sous celui d'Historia Septem Sapientium, et en français sous celui de Roman des Sept Sages de Rome. Le roman français remonte vraisemblablement au XIIe siècle, et l'on y retrouve une aventure dont le héros, nommé Merlin, est né sans père et confond les sages ou devins du roi. La donnée des deux récits n'est pas la même, mais les différences n'empêchent pas la critique de reconnaître à l'un et à l'autre la même origine. Si le nom de Mélin ou Merlin, si l'aventure du fils sans père et de la punition des sages était également dans l'original de Sendebad, il faudrait rechercher en Orient, soit dans l'Inde, soit dans la Perse, l'origine de la légende de notre prophète. Mais nous penchons à croire, jusqu'à preuve du contraire, que ce nom de Merlin fut introduit pour la première fois dans le roman des Sept Sages par un moine fort au courant des traditions bretonnes, lequel aura jugé bon, de sa propre autorité, de ne faire qu'un seul personnage du devin dont parlait le texte grec ou hébreu qu'il suivait, et du devin dont avait parlé Geoffroy de Monmouth. C'était alors un usage assez ordinaire de changer le nom des héros dont on reproduisait les aventures déjà racontées ailleurs. Par exemple, dans les textes du livre de Sendebad, l'empereur, son fils et son gouverneur ont changé de nom autant de fois que leur histoire est passée d'une langue dans une autre. L'empereur est tantôt Cyrus, tantôt Pontianus et tantôt Hérode, le fils tantôt Dioclétien, tantôt Lusignien, le gouverneur tantôt Saint-Hippas, tantôt Caton, etc. On ne pourrait donc s'étonner que le nom de Merlin eût également pris la place d'un autre nom persan ou indien. Quoi qu'il en soit, voici l'analyse de l'aventure du roman des Sept Sages, composée par nos trouvères plutôt d'après les récits populaires venus d'Orient que d'après un livre traduit de l'arabe, du grec, de l'hébreu ou du latin. Un empereur de Rome nommé Hérode avait sept sages qui interprétaient les songes en exigeant un besan d'or de ceux qui les interrogeaient. Ils avaient acquis ainsi des richesses pour le moins égales à celles de l'empereur. Or, il arriva que l'empereur se trouva frappé d'aveuglement toutes les fois qu'il voulait sortir des portes de Rome. Il fit venir les sages pour leur demander ce qui pouvait être cause de cet accident. Ceux-ci réclamèrent 8 jours pour répondre. Le terme écoulé, ils découvrirent qu'un enfant né sans père pourrait seul résoudre la question. Ils se mettent en quête et trouvent hors de Rome un enfant auquel ses compagnons reprochaient de n'avoir pas de père. Les sages l'arrêtent et demandent son nom. Il s'appelait Mélin. On le conduit à la cour. Chemin faisant, il donne gratuitement à un prud'homme l'explication d'un songe qui lui révélait l'existence d'un trésor caché sous son foyer. Arrivé devant l'empereur, Les sages lui disent que cet enfant va rendre raison de ce qu'il demande. Hérode le conduit dans sa chambre. « Sire, dit Mélin, il y a sous votre lit une chaudière d'eau bouillante, alimentée par cette diable. Tant qu'elle y sera, vous ne pourrez rien voir en dehors de Rome, et si vous l'ôtez sans éteindre les 7 bouillons de flamme, vous ne verrez pas plus dans Rome que hors de la ville. Apprenez-moi donc ce que je dois faire, dit l'empereur. Sire, il faut détourner votre lit et faire creuser dessous. 20 ouvriers arrivent, ouvrent le sol et trouvent la chaudière. Voilà qui est admirable, dit Hérode. Ton conseil sera désormais la règle de mes actions. Parle et tu seras obéi. Faites donc éloigner d'abord, dit Mélin, tous les gens qui vous entourent. Sire, dit-il ensuite, les bouillons de la chaudière indiquent la présence des 7 diables que vous gardez près de vous. Ah, Dieu ! Fait Hérode. Et qui sont-ils ? Ce sont les 7 sages. Ils sont devenus plus riches que vous, par une méchante coutume qui leur fait exiger un besan d'or de tous ceux qui demandent l'explication de leurs songes. Et c'est pour avoir toléré ce détestable usage que vous êtes privé de la vue dès que vous sortez de Rome. Maintenant, prenez le plus vieux des 7 et faites-lui couper la tête. Vous verrez le plus gros bouillon s'éteindre. « Ma foi, dit Hérode, je ne demande pas mieux qu'on me l'amène. » Le vieillard fut en effet décapité, et le plus gros bouillon s'éteignit aussitôt. Les autres sages, amenés les uns après les autres, subirent le même sort, et avec le dernier cessa de bouillonner l'eau de la chaudière. « Il ne s'agit plus maintenant, dit Mélin, que de laver vos mains et de faire remettre votre lit en place. Puis, vous monterez à cheval et vous sortirez de Rome. » Les selles furent mises aussitôt. L'empereur, accompagné de Mélin, franchissant le seuil de la maîtresse porte de la ville, vit tout aussi bien qu'avant de sortir. Il prit alors Merlin entre ses bras et lui fit tous les honneurs du monde. Comment ici distinguer l'invention de l'imitation ? Les chantres et conteurs bretons avaient-ils puisé aux sources orientales ? Les auteurs orientaux du livre de Sendebad, ou seulement l'auteur du roman des 7 sages, ont-ils enrichi leur texte d'une légende armoricaine ? Sans prétendre résoudre la question, je dirais que cette partie du livre de Merlin, quand elle serait empruntée aux légendes orientales, n'empêcherait pas Merlin d'avoir existé réellement en Northumberland et d'avoir été l'occasion de traditions purement nationales. D'après ces traditions, Merlin n'est pas nécessairement le fils sans père, c'est surtout un homme sauvage, né et nourri dans les forêts, entraîné par une force invincible vers la solitude des bois. Que le grand clerc Geoffroy de Monmouth, avant de revenir dans son poème à la tradition qui faisait de Merlin l'homme des bois, ait, dans son histoire, préféré celle qui lui donnait pour père un ange déchu, que cette dernière tradition ait été d'origine étrangère, cela ne peut nous conduire avec Warton en Orient pour y chercher l'origine et l'invention des romans de la Table Ronde. Nous aurons occasion de revenir sur cette difficulté.